Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En commençant la lecture de ce deuxième épisode du livre « Fernandel m'a raconté » de Raymond Castan aux éditions La Table Ronde, je dois dire que c'est avec beaucoup de plaisir que je partage avec vous ce document. Et c'est à travers cette lecture que je voudrais dire aux jeunes d'aujourd'hui, n'hésitez pas à reprendre des textes plus ou moins anciens qui vous paraissent vieux et sans intérêt peut-être. Je pense que dans le monde difficile d'aujourd'hui, il est bon de s'échapper un peu des contraintes actuelles et de retrouver un temps qui vous permettra sans doute de voir qu'à toutes les époques, dans tous les domaines, vous avez l'occasion de vous enrichir à travers des expériences plus ou moins joyeuses ou plus ou moins difficiles et des gens qui nous ont précédés. Fernandel, que nous allons retrouver dans notre lecture du jour, me semble être tout indiqué pour vous faire connaître un autre univers. Place donc à la lecture. Dans la vie privée, les comiques sont presque toujours des gens tristes. Et il y en a même de sinistres. De tous ceux que j'ai connus, et j'en ai beaucoup connus, Fernandel est le seul qui était aussi joyeux et aussi gai, aussi amusant à la ville qu'à la scène ou à l'écran. Le seul qui, une fois le rideau tombé ou les projecteurs éteints, avait encore envie de plaire et de faire rire. C'était un compagnon merveilleux, délicat, drôle, attentif, heureux de vivre et heureux de faire partager son bonheur. Parce qu'il était heureux, et avant tout, d'être Fernandel. Il n'en revenait pas d'être devenu Fernandel. Il lui arrivait de parler de lui à la troisième personne, comme César ou De Gaulle. Il disait de Franck au moment où celui-ci venait de se lancer dans le métier d'acteur, « Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse la carrière de Fernandel, ça n'arrive qu'une fois. » C'est vrai qu'il adorait aller se voir au cinéma, qu'il ne manquait aucune des reprises de ses films à la télé. C'est vrai qu'il pouvait dire à Jean Noël, « Il n'y a que moi pour me faire rire comme ça. » Mais c'était fait ou dit tout cela avec une si grande gentillesse, une si grande innocence, une si grande pureté d'esprit que personne ne songeait à s'en moquer. Il y avait étrangement en lui deux personnages. Un petit employé de banque de la Société marseillaise qui avait la chance unique de vivre dans une intimité de tous les instants avec la vedette qu'il admirait le plus, son idole, le grand Fernandel. On ne savait jamais très bien auquel des deux on avait affaire. Un jour, qu'il tournait un film dans les environs de Marseille et qu'il était libre pour l'après-midi, il nous avait proposé d'aller faire un tour à Carry-le-Rouet. L'un de nos compagnons ne connaissait pas sa maison de la Calanque, l'oustaou de la mer. Un peu avant d'arriver à Saucé-les-Pins, Fernand se souvint que sa femme avait dû quitter Carry 2 jours plus tôt et que tous les dispositifs anti-vol étaient en place dans la propriété. Par faveur spéciale, il y en avait un qui déclenchait une sonnerie chez les gendarmes eux-mêmes. Bref, pour finir, Fernandel réussit à nous amener à un endroit qu'il connaissait, d'où il pouvait nous montrer par-dessus le mur, en montant sur une borne, comme à des touristes américains, la maison de Fernandel. Et il l'a regardée avec les mêmes yeux que nous. C'est le soir, surtout, quand il tourne en extérieur, que Fernandel se sent en forme. Après le travail de la journée, il a besoin, comme beaucoup d'acteurs comiques, d'une longue séance de décompression. Il lui faut plusieurs heures pour retrouver le calme. Et surtout, ce que ne savent que les intimes, il souffre d'insomnie, une insomnie tragique, incurable, qui fait de lui un cas médical. Il lui arrive souvent d'aller se coucher vers 11 heures, de rester toute la nuit les yeux ouverts, fixés sur le plafond, et de se relever vers 6 heures du matin sans les avoir fermés, sans avoir perdu conscience un seul instant. Il a essayé tous les calmants, toutes les drogues, tous les remèdes de bonne femme. Il a consulté tous les plus grands spécialistes, sans résultat. Alors, le dîner fini, quand il a été réussi, quand le film marche bien, quand Fernandel se sent en confiance, entouré d'amitié et de chaleur, il va commencer un formidable numéro de charme. Pour que la soirée ne finisse plus, pour retarder loin dans la nuit et même jusqu'au petit matin l'heure de la séparation, et pour lui celle de la solitude, toutes les anecdotes de ce livre, je les ai entendues de sa bouche, une nuit d'été légère à la terrasse d'une trattoria joyeuse, du Trast Vert, un jour de neige, c'est rare la neige à Marseille, chez un 3 étoiles des Catalans champions du monde. Après lui, de la bouillabaisse, champion du monde de la bouillabaisse. Fernandel a attendu que les derniers clients aient disparu. Puis, il a commencé. Le gala. Il raconte ses histoires avec un merveilleux talent. En ménageant ses effets, en plaçant ses coups de théâtre, en préparant les chutes, il a une mémoire prodigieuse. Il se souvient avec une précision affolante de tous les noms propres, ceux des amis de son enfance, ceux de ses camarades de régiment, ceux de tous les comédiens, de tous les techniciens, même les plus modestes, de chacun de ses 150 films. Nous savions tous que Rabatus était le nom du droguiste qui tenait boutique au rez-de-chaussée de sa maison natale, boulevard Chave, que le grand copain de son enfance, le prince des débrouillards, cousin marseillais de Gavroche et de Bibi Fricotin, c'était Di Falco, que son patron à la Banque nationale de crédit, c'était M. Gatineau, et à la savonnerie de la Cigale, M. Richelme, que le type qui, en 1914, avait gagné devant lui le concours Comédia de la chanson au Châtelet de Marseille, devenu depuis le Capitole, s'appelait Larquet, que le directeur de l'Odéon qui lui avait donné sa première chance, c'était M. Valette. Cette mémoire des noms propres lui avait valu quelques aventures. La banque de M. Martin. Je tournais la cuisine au beurre au studio du Point du Jour, racontait Fernandel, avec Gilles Grangier et Bourville. Et voilà que le producteur, un beau jour, nous amène deux messieurs qu'il avait invités sur le plateau pour leur faire visiter les studios. Deux banquiers dont les banques avaient participé au financement du film et à qui, bien sûr, ils voulaient demander une rallonge. Il nous les présente. Le premier, j'entends pas son nom. Le deuxième, Monsieur Martin. Monsieur Martin, je fais préciser. Oui, Monsieur Fernandel, répond l'autre, et je suis content de vous connaître. Mon oreille ne me trompe pas. Il s'appelle Martin. Il est banquier. Et il a l'accent marseillais. L'accent marseillais chic. L'accent de Saint-Ginier, mais enfin, l'accent marseillais. Et soudain, voilà que mes souvenirs me reviennent. Dans mon enfance, j'en ai connu un de M. Martin Banquier, directeur à Marseille de la banque Mathieu Martin, une des nombreuses banques où j'avais travaillé, une maison dont les patrons avaient une réputation bien établie et justifiée de Cubeni. Di Falco m'avait expliqué « Tu n'as qu'à parler de la bonne mère du Sacré-Cœur, tu dis que le dimanche, le matin, tu vas à la messe, l'après-midi au patronage, et il t'embauche. » C'est exactement ce qui s'était passé. J'entrai le lendemain chez Mathieu Martin au service du portefeuille. Chez Mathieu Martin, on était dans Balzac. Le matin, dans chaque service, avant de commencer le travail, on disait la prière en commun. On faisait le signe de la croix et puis au boulot, toute la journée, sans lever le nez de la table. On m'avait prévenu le premier jour. Il fallait parler à voix basse. Il fallait marcher sur la pointe des pieds. Il était formellement interdit aux employés hommes d'adresser la parole aux employés femmes, en aucun cas, sous aucun prétexte, même en dehors du service, même dans la rue et réciproquement. Moi, dès le lendemain, j'avais provoqué un petit scandale. On m'avait attribué un encrier, un porte-plume, du papier, une gomme. On avait oublié de me donner un crayon. J'en demande un à mon chef de service. Il me répond « Il faut faire un bond. » « Un bond ? » « Bon, je fais un bond. Bon pour un crayon. Je le lui apporte. » Et il me dit « Si tu veux l'avoir plus vite, ton crayon, tu rajoutes sur le bond « Merci d'avance. » Moi, je veux bien. Je rajoute « Merci d'avance. » Et je rajoute même, puisque j'y étais, « Poignée de main. » Oh, malheureux ! Qu'est-ce qu'ils ont pas cru ? Que j'avais osé plaisanter, que c'était du mauvais esprit, et s'ils avaient introduit dans la maison un dangereux bolchevique. Enfin, on pratiquait dans la maison la charité chrétienne. On m'avait accordé le sursis. Le dimanche suivant, M. Martin, qui traversait la foire Saint-Lazare à la plaine Saint-Michel, je me demande ce qu'il venait faire dans ce lieu de perdition, aperçoit sur le grand huit, au milieu d'une bande joyeuse, de petites superbes et riantes aux éclats, un visage qu'il connaît, qu'il reconnaît. Oui, oui, c'est le jeune contendin du service du portefeuille. Incroyable ! À qui on aurait donné le bon Dieu sans confession ? Inimaginable ! À l'heure justement où il devrait être aux vêpres ? Mais quel scandale ! Ils avaient pardonné aux bolcheviques. Au suppôt de Satan, ils pouvaient pas. Ma brève carrière chez Mathieu Martin s'était terminée le lundi matin. Ils n'avaient même pas attendu que j'aie dit la prière. Et voilà que 50 ans plus tard, j'avais là devant moi un monsieur Martin banquier avec l'accent de Marseille. Je lui demande « Vous êtes parent avec M. Martin de la banque Mathieu Martin, rue Nationale à Marseille ?»« Je suis le petit-fils de M. Mathieu Martin. »« Eh bien, M. Martin, j'ai bien connu votre grand-père. »« Ah, vraiment ?»« Oui, en 1922, j'étais employé chez lui dans sa banque, au service du portefeuille. » « Je le savais, monsieur Fernandel. Mon grand-père en était très fier. J'espère que vous avez gardé un bon souvenir de lui. »« Oui, excellent. Il m'a foutu à la porte. » »« Il savait plus où se mettre, le cher banquier. Et le producteur non plus. Il ne l'avait pas amené là pour ça. Je les ai rassurés tout de suite. Je vais vous dire, il y a aujourd'hui à Marseille 8 directeurs de banque qui disent à peu de choses près, avec un peu de fierté dans la voix. Vous savez, Fernandel a débuté chez nous. Aucun n'ajoute, et pourtant c'est vrai, je l'ai foutu à la porte. À travers ces histoires racontées aux amis et aux amis seulement, les soirs où leur amitié leur était encore plus précieuse, c'est, j'en ai eu souvent l'impression, sa vérité profonde que Fernandel voulait nous confier comme un dépôt sacré. Il avait surmonté pour ça cette pudeur paralysante qui est, quoi qu'on en pense, le trait caractéristique des Méditerranéens et plus encore des Provençaux. Il avait voulu que nous approchions de plus près cet inconnu qu'il était, perdu au milieu du désert que la gloire crée autour de ce qu'elle a choisi. Si je raconte aujourd'hui ces histoires, comme il me les a racontées, c'est parce que j'ai l'impression qu'à travers elles, je peux faire découvrir à ceux qui l'aimaient ce que son visage le plus célèbre du monde empêchait de voir, son âme, et qu'ils l'aimeront encore un peu plus. Chapitre 3. Pagnol. 1. La lune de miel. Pagnol, c'est un menteur de charme. Fernandel est assez content de sa formule. On voit que ce n'est pas la première fois qu'il l'utilise. Nous sommes attablés en train de manger des tellines à la terrasse d'un restaurant de vacances sur le petit port d'Anzio, vidé de ses yachts, mais envahi par d'étranges bâtiments bariolés, des trirèmes romaines du temps de César, toutes neuves. Joseph Mankiewicz va tourner ici dans quelques jours la bataille d'Axiom de son film Cléopâtre. Lise Taylor, dans sa plus grande beauté, déjeune à une table voisine et sa présence rayonnante illumine tout le paysage. Elle aussi a reconnu Fernandel tout à l'heure. Elle lui a souri. Autour d'elle, les lieutenants Antoine Burton, une dizaine de géants blonds venus du Kentucky ou de Massachusetts, tous superbes. L'un d'eux, qui réussit le miracle d'être encore plus beau que ses compagnons, a un visage qui me paraît familier. C'est le fils d'Errol Flynn. Nous sommes là pour un projet moins ambitieux. Fernandel m'a demandé de lui écrire les dialogues de « Avanti la musique », dont l'histoire se déroule à l'époque du débarquement allié en Italie. Je suis venue travailler sur les lieux de l'action avec le metteur en scène qui est assis avec nous et dont ce sera le premier long métrage. C'est un Romain aux cheveux roux. Il n'a pas encore laissé pousser la barbe à la Garibaldi avec laquelle il connaîtra la gloire. Il s'appelle Sergio Leone. Fernandel continue. « Si vous saviez ce qu'il m'a fait, Pagnol !»« Je le sais ce qu'il lui a fait, Pagnol. » Pendant qu'ils tournaient ensemble Carnaval, Pagnol l'a traité de pitre, de paillasse et de grimacier, de plus mauvais acteur du moment. Puis, toutes ces injures, il les lui a confirmées par lettre. C'est Pagnol qui me l'a raconté lui-même quelques jours plus tard, en riant aux éclats. Je ne suis pas très à mon aise. Une profonde amitié me lie à Marcel Pagnol. Je ne suis pas sûre que Fernandel le sache. Si Fernandel en dit du mal, je serai gênée. Et de notre côté, j'aimerais bien entendre la version Fernandel de l'aventure. Si mes inquiétudes sont vaines, Fernandel parle de Pagnol très gentiment. Mes espoirs seront déçus. Malgré le rôle un peu ridicule qu'il y joue, il raconte l'histoire exactement comme Pagnol. Et même, il en rit lui aussi, d'un air de dire « Quel type ce Marcel !» Je crois avoir compris. Fernandel est un fanatique de la vérité vraie. Pagnol la préfère embellie. Il l'embellissait si bien. « Continue à me mentir, lui disait Ali Darouf, à qui il faisait des promesses. « Je ne te crois pas, mais je me régale. » Pagnol et Fernandel. Ils ont tous les deux grandi à Marseille dans les années heureuses du début du siècle. Tous deux ont conquis la gloire à Paris, sur les planches du boulevard, dans le même quartier. Quelques centaines de mètres à peine séparent le concert Mayol, dont Fernandel était la vedette, des variétés où triomphait Topaz. Et pourtant, c'est à Marseille qu'ils devaient se rencontrer pour la première fois. Fernandel le racontait volontiers.
Thank you.
La rencontre historique. Après le succès du rosier de Madame Husson, j'étais redescendue à Marseille où j'avais été reçue comme l'enfant prodigue, ou à peu près. On n'avait pas tué le veau gras, mais presque. J'étais même pas sortie de la gare Saint-Charles que les gens me reconnaissaient, me parlaient, m'acclamaient. « Oh, Fernand ! Et vive Fernand ! Ça va, Fernand ?» Si j'étais venue à Marseille, c'était pas seulement pour respirer l'air du pays. C'est parce que mon ami, M. Franck, m'avait proposé de jouer aux variétés une revue locale. Oh, qué combine ! Avec une affiche formidable. D'abord moi, puis Alida Rouf, puis Fortuné Aîné, et en vedette américaine mon vieux copain Andrex. On fait le triomphe. Et puis, un soir avant Noël à l'entracte, la porte de ma loge s'ouvre. Et je te vois entrer une espèce de chat maigre avec des yeux noirs qui lui mangent toute la figure, le menton bleu, la fameuse mèche aile de corbeau. Je le reconnais tout de suite, Marcel Pagnol. J'avais vu sa photo dans tous les journaux. Lui me saute au cou, il m'embrasse et me dit « Tu as du génie !» Qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde ? Moi je lui dis « C'est bête de penser qu'on a vécu si longtemps, si près l'un de l'autre et qu'on ne s'est jamais rencontrés. » Ce qui était, je m'en rendais compte en même temps que je le disais, un peu couillon. À quoi Pagnol me répond avec son gros bon sens « On s'est sûrement rencontrés, mais on ne pouvait pas se reconnaître puisqu'on ne se connaissait pas. » Et il ajoute « Mais maintenant, on ne se quitte plus puisqu'on est des amis d'enfance. » Déjà, le mensonge de charme. Et il me parle d'un film auquel il pense pour moi. Une espèce de topaze qui se passerait dans les milieux du cinéma. En somme, il avait déjà l'idée du Spunz sans en avoir défini tout à fait le personnage, ni bien sûr sans en avoir trouvé le titre. Quelques mois après, pendant les gaietés de l'escadron, je reçois un télégramme. Il me demande de passer le voir rue Fortuny. J'y cours. Il avait un livre ouvert sur son bureau. Il me fait asseoir et il commence à me lire son livre. Figurez-vous un type mal embraillé, des oreilles en paravent comme une mule qui voit son ombre, du poil semé à l'avare sur les joues, une grande bouche qui rit. Ça riait en se tapant sur les cuisses, ça se tordait comme un osier pelé. Sa maladie, c'était le rire. Il pouvait pas s'empêcher de rire. Pagnol pose le livre et il me dit « Alors, tu le reconnais ?» Je lui dis « Qui c'est ?» Il me dit « Qui c'est ? Ben, c'est toi, pardi ! C'est le personnage que tu vas jouer dans le film que je vais tourner. Il s'appelle Saturnin et le film, c'est Angèle. Et ce que je viens de te lire, c'est le portrait de Saturnin par l'auteur du livre, Jean Giono. » Il ajoute « Il te connaît, Giono ? Non. On dirait pourtant que c'est en pensant à toi qu'il a écrit ça. » Encore le mensonge de charme. Parce que, je l'ai su plus tard, il avait d'abord proposé le rôle en faisant le même cinéma à Michel Simon. Michel Simon venait de jouer dans La Talente de Jean Vigo, un personnage du même genre. Et puis aussi dans Boudu, Sauvé des eaux. Mais Michel était déjà une grande vedette. Il avait demandé très cher, trop cher pour Marcel, qui s'était rabattu sur moi. Ça fait rien, concluait Fernandel. Michel Simon est un acteur de génie, mais pensez que Saturnin, le valet provençal d'une ferme provençale, imaginé par un écrivain provençal et filmé par un cinéaste provençal, ça a failli être joué par un Suisse. Ça fait mal au cœur. Vous vous rendez compte ? Un Suisse ! Marcel Pagnol, qui avait hérité de son père instituteur le goût de la pédagogie, m'avait dit un jour au cours d'une de ses leçons de théâtre « Écoute, Raymond, je vais te faire un cadeau. Je vais te livrer un de mes secrets d'auteur dramatique. Quand, pour les besoins de ton action, il te faut gagner un peu de temps, il y a un truc infaillible. Ton personnage en scène, tu lui fais parler de son métier. Tu ne risques rien. Avec ça, tu ne fatigueras jamais ton public. C'est vrai que dans l'œuvre de Pagnol, chaque personnage a un métier. Dans Regain, le deuxième film qui réunit Pagnol et Fernandel, celui-ci joue Gédémus, le rémouleur ambulant. Et Pagnol le fait parler de son métier. Au boucher qui lui apporte à aiguiser son couteau de la Loyaux et qui lui demande ses références, Gédémus Fernandel répond « Vous avez affaire à un homme qui connaît son métier, qui le connaît à fond. J'ai aiguisé des rasoirs, des haches, des cogniers, des hachoirs, des ciseaux, des aiguilles. J'ai aiguisé la baramine, la serpe du vigneron et les lames des faucheuses. Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas aiguisée, c'est le couperet de la guillotine. On ne me l'a pas demandé ?»« Ça vous aurait fait plaisir ?» s'inquiète le boucher. « Oui, monsieur. Pour une question de philanthropie, parce que je l'aurais si bien affilé du bout le plus exquis de ma pierre à huile que le pauvre condamné à mort n'aurait absolument rien senti et que dans sa dernière seconde, il ne se serait pas dit « on me décapite », mais il aurait pensé « je perds la tête ». Fernandel ne gardait pas un bon souvenir de Regain. Pagnol, disait-il, m'a tout coupé. Fernandel avait tort, parce que pendant qu'ils tournent en sable l'histoire exemplaire de Giono, perdu dans les rochers des Ours, où ils vivent en communauté avec toute l'équipe du film, l'auteur et l'interprète ne se quittent plus. Ils déjeunent ensemble. Ils jouent ensemble à la pétanque, ils vont ensemble placer des collets dans la colline, ils bavardent ensemble, interminablement à la veillée. Et petit à petit, Pagnol peaufine, à partir de Fernandel, ce personnage qu'il cherche pour étayer son topaze du cinéma auquel il pense depuis des années. Ce personnage qu'il fera jouer par Fernandel lui-même, c'est le Spunz. On connaît l'histoire du Spunz. Le Spunz, c'est un fada qui croit qu'il a un très grand talent de comédien dramatique, un don de Dieu, et qui rêve de devenir vedette de cinéma. Des cinéastes parisiens venus par hasard, tournés dans son visage, lui font une blague énorme. Ils lui signent un contrat de vedette dont le Spunz, monté à Paris, exige qu'il soit respecté. Pour finir, on découvre que le Spunz a vraiment un immense talent, mais de comique. Il réalise son rêve de fada. Il devient vedette de cinéma. 100 détails dans le film sont empruntés à Fernandel lui-même. Le Spunz, au début de l'histoire, vit chez son oncle qu'il a recueilli à la mort de son père et qui continue à l'entretenir. « Tu manges ?» lui dit cet oncle, admirablement joué par Charpin. « Mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. » Cet oncle est épicier. Pourquoi épicier ? Probablement parce que le père de Fernandel, au retour de la guerre, avait été lui-même, à Marseille, gérant d'une succursale, d'une grosse maison d'alimentation du Havre, les établissements Henri Le Bossé et compagnie. Il y a dans le Spunz une histoire d'anchois des tropiques, des anchois avariés dont l'épicier explique le goût bizarre par leur origine prétendue tropicale. Il y avait eu, dans l'adolescence de Fernandel, une affaire de sardines du Portugal qu'il racontait lui-même quelquefois, sans en être très fier. Les sardines du Portugal. J'aidais mon père dans son travail. J'avais 15 ans et j'avais découvert, en regardant ses livres de commerce, qu'il y avait au Portugal des centaines de maisons qui fabriquaient des conserves de sardines à l'huile. À croire que les Portugais ne faisaient que ça, mettre des sardines en boîte. Alors moi, ça m'avait donné une idée un peu canaille, sans rien dire à mon père. J'avais écrit à toutes ces maisons. Je leur avais dit que j'étais représentant en épicerie à Marseille et que s'ils voulaient m'envoyer un échantillon de leurs sardines, je pourrais m'occuper de les leur placer. Oh, pauvre ! Un mois après, ils m'avaient tous répondu d'accord. Et qu'est-ce que j'avais pas reçu comme boîte de sardines? De toutes les formes, des carrés, des rectangulaires, des ovales, des grosses, des petites, des extras, des super, du super extra, des ordinaires, des aromatisés, des piquantes. Toute une cargaison de sardines. Pas de quoi boucher le port, bien sûr, mais presque. Avec en supplément des boîtes de thon en filet, en morceaux, en miettes, des maquereaux au vin blanc, des anchois roulés, des enlots. Ce stock portugais, je n'avais pas réussi à le cacher dans ma chambre. Je l'avais remisé dans l'entrepôt de mon père. Mais ce n'était pas possible qu'il ne découvre pas un jour cette montagne de fer blanc. Ce jour-là, mes enfants, ça a été ma fête. On l'entendait depuis la madrague. Pour finir, il m'a foutu à la porte. Sans ça, peut-être, je serais restée épicier. Il est probable que le père de Fernandel, qui, le samedi soir, retournait son prénom pour en faire son nom d'artiste, Sinède, ait troqué sa blouse grise d'épicier contre le bourgeron de Paulin pour aller chanter dans les banlieues, elle a de la barbe Philomène, était un schpunz assez réussi. Son jeune frère, comique lui aussi, que certains directeurs de musicale annonçaient ainsi sur leurs affiches, « Francined, le frère de Fernandel », écrit le schpunz parfait. Et Fernandel lui-même ? Ce schpunz pirandélien, Pagnol le tourne à la manière de « ce soir on improvise ». Dans la foulée, quand il pleut par exemple et qu'on ne peut pas aller tourner des scènes de Regain, on tourne au studio des passages du schpunz. Pagnol est à l'apogée de sa gloire et au sommet de sa forme. Marius et Fanny ont connu des succès fabuleux. Il a réalisé lui-même avec le même bonheur Angèle, Geoffroy, Cigalon, Merlus, César, Topaz, Regain. Il tourne chez lui, à Marseille, dans des studios qui sont à lui. Il vient de les faire construire, il les inaugure. Tous les fidèles ont répondu à son appel, tous les maréchaux d'Empire, ils sont tous là, autour de Fernandel. Poupon, Charpin, Blavette, Vatier, Bassac, avec Orane de Mazis et Alida Rouf. Autour d'eux, toute une bande de jeunes comédiens débutants, dont l'un s'appelle Louis Ducreux et l'autre André Roussin. Il ne manque que Jules, Rému. Il s'est fait représenter par Mopi, pour qui Pagnol a imaginé, pour le clin d'œil de l'amitié, un personnage de barman schpunz qui se prendra pour Rému. Moi, qui ai la voix de Monsieur Rému? D'ailleurs, ce n'est pas seulement la voix, mais l'œil, la façon de marcher, la bonté un peu bourrue. Enfin, tout, quoi? Demande un scénaste. Non, non, pas tout. Parce que j'ai aussi ma personnalité. Oui, vous pouviez jouer des rôles qu'il ne peut pas jouer ? À quoi Mopi répond superbe : Monsieur Rému, pourrez-vous répondre la même chose ? Il conclut en apothéose : Je ne veux pas faire du cinéma parce que j'ai une conscience. Vous venez de dire que j'avais la voix de Rému. Eh bien, monsieur, il m'est permis de voir la chose sous un angle personnel et de dire que c'est monsieur Rému qui a ma voix. Et quoi que ce soit la mienne, je n'ai plus le droit de m'en servir parce que ce grand artiste s'est produit en public avant moi et que je n'ai pas le droit de lui faire du tort. Non, non, n'insistez pas, monsieur, je n'ai pas le droit. Entre Pagnol et Fernandel, c'est la lune de miel. Pagnol écrit chaque soir les séquences qu'il tournera le lendemain. Et pour ce genre d'exercice, Fernandel est le partenaire idéal. Il a une mémoire de fer. « Quand je lui donne un texte, raconte Pagnol, il me dit « Laisse-moi une heure. » Et c'est toujours parfait. Lorsqu'un soir, Pagnol n'est pas inspiré, ou que la belote se termine trop tard. Le jour suivant, on remplace le tournage par un concours de pétanque. C'est toujours Pompon qui gagne. Les scènes qui, à la projection, ne donnent pas satisfaction, on se les retourne. Pierre Brasseur, venu là dire bonjour aux amis, est aussi engagé pour jouer le rôle d'un photographe de plateau un peu homosexuel, cousine. Ce qui lui fait faire un cachet de 4 jours. Le 5e, il disparaît. Il a filé sur Nice alors qu'on avait encore besoin de lui. Aucune importance. On le remplace par un machiniste qui a à peu près sa carrure et qu'on ne filmera que de dos. Fernandel est heureux. Il retrouve sa famille tous les soirs. Il est vedette, vedette unique d'un pagnol. Tout ceci se passe à Marseille, son pays où chacun sait qu'il est si difficile d'être prophète. La gloire le salue sur les lieux mêmes où il a connu les temps difficiles et la dérision. Il dit un des plus beaux textes qui lui sera donné de jouer. Marcel, qui ne lui refuse rien, ajoute au Spoons une chanson, chef-d'œuvre du genre, que lui écrit le gentil Jean Mancé, qui est à la fois son ami d'enfance, son beau-frère et son parolier attitré. Avez-vous remarqué dans l'existence que les couples ne sont pas assortis? Car bien souvent, si la dame est immense, en général, le monsieur est petit. La femme à barbe épouse l'homme imberbe, le gros la maigre et la maigre le gras, le doucereux adore la femme acerbe. Moi, je ne comprends pas ça. Je n'ai jamais compris l'amour, il est aveugle et sourd. Mais au fond de lui-même, cette insouciance, se laisser aller, inquiète Fernandel. Le choc, il n'est pas à l'aise. Ce comique est un rigoureux. Il ne voit pas que Pagnol, sous ses dehors fantaisistes, est au moins aussi rigoureux que lui. C'est pendant le joyeux tournage du Spoons que l'idée va s'ancrer dans l'esprit de Fernandel que Pagnol, quand même, c'est pas sérieux. Ce malentendu stupide va peser pendant toute sa vie sur ses rapports avec celui à qui, pour reprendre ses propres mots, il doit tant et pour qui il a une admiration sans limite. Dans la deuxième partie de notre lecture, nous avons rencontré un duo bien connu dans le monde du cinéma et au-delà dans la vie d'ailleurs. Mais pourtant, ce n'est pas toujours évident. Alors, brièvement, pour relever cela, je relis quelques lignes de ces derniers paragraphes et surtout la conclusion que nous venons de dire, mais je la relirai volontiers. Pierre Brasseur, venu là dire juste bonjour aux amis, est aussitôt engagé pour jouer le rôle d'un photographe de plateau un peu homosexuel, cousine. Ce qui lui fait faire un cachet de 4 jours, le 5e, il disparaît. Il a filé sur Nice alors qu'on avait encore besoin de lui. Aucune importance. On le remplace par un machiniste qui a à peu près sa carrure et qu'on ne filmera que de dos. Mais au fond de lui-même, cette insouciance se laissait aller inquiète Fernandel. Le choc, il n'est pas à l'aise. Ce comique est un rigoureux. Il ne voit pas que Pagnol, sous ses dehors fantaisistes, est au moins aussi rigoureux que lui. C'est pendant le joyeux tournage du Spoons que l'idée va s'ancrer dans l'esprit de Fernandel que Pagnol, quand même, c'est pas sérieux. Ce malentendu stupide va peser pendant toute sa vie sur ses rapports avec celui à qui, pour reprendre ses propres mots, il doit tant, et pour qui il a une admiration sans limite. À bientôt, chers amis auditeurs, pour la suite de nos lectures. Retrouvez-moi sur Radio Alliance Plus. Écoutez en direct sur notre antenne les mardis et mercredis à 21h30 ou retrouvez-moi sur le site de la radio radioalliancepluss.fr. À bientôt.